PME Magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Tania Micky, CFO de la société suisse cotée en bourse Tecan, qui opère sur le marché de la santé. Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.
Je m'appelle Tania Micky, je suis CFO pour Tecan, qui est une société suisse listée qui opère dans le domaine de la santé. Nous produisons des instruments qui permettent l'automatisation des process d'analyse en laboratoire. Et avant cela, j'ai été pendant 10 ans chez Sulzer. Et avant cela, encore 10 ans chez General Mills. Ce sont les deux plus grosses expériences que j'ai eues, même si j'ai été dans deux autres sociétés aussi. J'ai fait mes études en France, mais mon premier poste était en Russie, à Moscou. Et après cela, j'ai été en Pologne, en Angleterre, ainsi qu'en Australie, avant d'arriver en Suisse. Donc, en fait, j'ai toujours parlé dans la langue anglaise dans mon travail. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que je suis en Suisse alémanique, à Zurich, et je commence à parler un petit peu l'allemand. Mais c'est vrai que ma langue principale au niveau du travail reste l'anglais et ça ne me dérange pas du tout.
Et qu'est-ce qui vous a finalement poussé vers les chiffres et la direction financière ?
En fait, j'ai commencé par vendre des chocolats et des bonbons en Russie. Et puis j'ai réalisé que cela demandait quand même beaucoup d'efforts de ma part et que finalement les chiffres, c'était ce que je préférais. Donc je suis partie sur un poste de finance à Moscou dans une start-up. Et là, j'ai réalisé que la finance vous donnait la possibilité de toucher un petit peu à tout. J'ai fait de la mise en place de systèmes, j'ai mis en place des process, j'ai recruté des gens. Et finalement, dans toute ma carrière, c'est ce que j'ai fait. Je suis une généraliste. Qui a fait des process, du sales and operating planning process par exemple, de la mise en place de systèmes, j'ai été chef de projet. Donc finalement la finance pour moi c'est un métier qui vous permet de comprendre tous les métiers de la société.
La direction financière touche à tous les domaines, le management et les chiffres. Est-ce que finalement on peut être bon partout ?
Alors bien sûr vous pouvez soit vous spécialiser et être très bon techniquement dans une des fonctions de la finance par exemple. Où vous pouvez comprendre un petit peu tout ce qui vous permet de prendre des décisions. Mais le plus important, finalement, c'est d'avoir derrière vous une équipe qui est pointue, si vous souhaitez rester généraliste. Une équipe, bien sûr, qui doit être la meilleure possible, puisqu'elle vous permettra, finalement, de prendre vos décisions sur la base de données d'informations qui vont vous donner, qui seront les plus précises et les plus correctes possibles.
Est-ce que c'est un choix de votre part d'avoir choisi une branche si technique pour la direction financière ?
Alors non, mais par contre, là où il y a un très bon point, c'est la versatilité de la fonction vous permet finalement de changer d'industrie. Vous n'êtes pas obligé si vous commencez en banque par exemple, vous n'êtes pas obligé de rester en banque. Moi j'ai commencé dans l'agroalimentaire, j'ai fait un petit peu dans l'agriculture et le catering d'aviation. J'ai continué dans les pompes, effectivement, pompes pour plateformes pétrolières et centrales nucléaires, etc. Et ça, c'était chez Sulzer. Et j'ai appris la technique, c'est vrai. J'ai appris à reconnaître des pompes, j'ai appris à comprendre comment elles fonctionnaient et surtout comment on les fabriquait, puisque en fait, c'est ça aussi qui est important dans la finance. Vous avez besoin de comprendre les process. Aujourd'hui, je suis dans le domaine de la santé, qui est encore l'opposé, finalement, de ce que j'ai fait jusque-là. Et de la même manière, il a été possible de m'intégrer sans aucun souci dans ce genre d'industrie totalement différente. Parce que finalement, les chiffres sont les mêmes partout.
Autre spécificité, notamment si on reparle de Sulzer, c'est que vous avez aussi opéré au sein d'une multinationale avec différentes filiales dans le monde entier. En quoi est-ce que ça façonne votre fonction de directrice financière ?
Je pense qu'il y a effectivement une très grosse différence entre être dans une société qui est dans un seul pays, puisque finalement, je dirais presque, vous vous focussez plus sur la gouvernance dans le pays même et sur plus la comptabilité peut-être. Bien sûr, selon la taille, l'analytique est importante aussi. Quand vous êtes dans une société globale, vous êtes obligé de prendre en compte non seulement les cultures différentes, mais aussi tout ce qui est gouvernance et conformité au niveau de tout ce qui est réglementation dans ces différents pays.
Comment est-ce que vous définiriez votre fonction et comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ?
CFO, pour moi, c'est la personne qui va assurer au CEO une tranquillité d'esprit et la possibilité pour lui de se concentrer sur la stratégie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on est responsable, finalement, du bon déroulement dans l'entreprise. On est responsable de la conformité, des chiffres, de ce que l'on va communiquer, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit au directoire ou aux investisseurs quand vous êtes listé, et vous devez avoir une compréhension finalement de ce que vous faites, de ce que vous allez faire, une vision de ce qui va se passer, et vous devez préparer la société pour cela. Comment le métier a évolué ? Très honnêtement, je n'ai jamais été en fait intéressée uniquement par un côté de l'entreprise. On dit souvent oh, le CFO a évolué d'un comptable à un analytique ou à un stratégique ou à un stratège. Pour moi, c'était les quatre facettes du CFO ont toujours été importantes. Il a toujours été important de les avoir. Donc, ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est l'importance de chacune une fois que vous évoluez. Donc, dans un premier temps, effectivement, vous devez avoir des chiffres exacts, bien sûr, la comptabilité. D'un autre côté, vous devez aussi comprendre et analyser vos chiffres. Vous devez comprendre les process aussi et l'impact que vous avez ainsi que les autres fonctions dans ces process. Et pour finir, quand on parle de stratégie, c'est plus pour moi d'anticiper où est-ce que l'on va. Donc, aujourd'hui, l'évolution de la carrière, c'est plus entre ce que je faisais manuellement hier, aujourd'hui, demain, on doit le faire de manière de plus en plus digitale et automatisée.
Vous évoluez aujourd'hui dans une entreprise pharmaceutique et ça ne vous a pas échappé depuis une année. On vit une pandémie exceptionnelle. Comment avez-vous adapté votre rôle à cette situation sidérante ?
Nous sommes dans le domaine de la santé et nous avons eu le privilège de participer, en fin de compte, à essayer d'enrayer cette pandémie, puisque nos instruments sont clés pour les laboratoires et pour tout ce qui est analyse. Et cela nous a permis vraiment d'accélérer, je dirais, l'automatisation des laboratoires grâce à nos instruments. Par contre, ce qui s'est passé au tout début, et notamment en parlant avec les investisseurs, leur grande question, c'était quelle est votre prévision, quelles sont vos prévisions, comment est-ce que vous voyez ? C'était encore plus important pour eux, finalement, que l'on ait cette maîtrise de qu'est-ce qui va se passer à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois. Et pourtant, personne ne pouvait anticiper ce qui allait se passer. Nous avons été capables d'anticiper, pas à 6 ou 12 mois, mais en tout cas à plusieurs semaines, puisque nous avons tout de suite demandé des exemptions pour nos usines, pour qu'elles continuent à opérer. Nous avons anticipé au niveau de nos fournisseurs pour tout ce qui est matières premières et nous avons d'ailleurs bénéficié du fait que nous sommes très souvent en local plutôt qu'en outsourcé. Ce qui était aussi important, c'était les liquidités, donc le cash, quelque chose de très important pour un CFO. Et nous avions une politique très prudente au niveau du cash et nous avons continué encore plus dans cette optique. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu de soucis au niveau de la liquidité de l'entreprise pour cela.
Est-ce que Tecan fait partie des gagnantes de la pandémie ?
Oui, on peut dire ça aujourd'hui, puisque comme je disais, nous avons, pour nous, c'était très important de pouvoir participer à cet enrayement. Donc nous avons continué, nous avons vendu. Et maintenant, la question, bien sûr, toujours qui arrive, c'est comment sera le futur pour vous qui avez été gagnant ? Est-ce que vous allez pouvoir continuer dans cette lancée ? Et nous pensons que l'avenir reste très positif, puisque finalement, ce que l'on a découvert, c'est que le monde doit être préparé à ce genre de situation, quelle qu'elle soit, et on fait partie des sociétés qui peuvent aider à cette préparation.
face au manque de visibilité finalement sur la sortie de crise. Certes, il y a le vaccin, mais tout reste encore avec beaucoup de points d'interrogation. Comment est-ce qu'on, en termes stratégiques et de prévisibilité, comment est-ce qu'on navigue dans ce brouillard?
Alors, on fait beaucoup plus de scénarios, c'est clair, hein, on fait beaucoup de modeling. Nous avons donné une prévision d'une croissance, donc ça c'est positif, mais d'une croissance qui irait de un chiffre à deux chiffres en termes de croissance, parce que justement nous avons prévu plusieurs scénarios qui pourraient se traduire soit dans l'un, soit dans l'autre. Il y a trois C qui sont très importants pour moi, c'est cash, conformité et alors le C il est en anglais, donc c'est champions, donc les gens. À partir du moment où vous faites, je pense, attention à ces trois éléments, vous pouvez déjà prévoir beaucoup de choses.
Tekken est coté en bourse. Qu'est-ce que ça change dans votre fonction de dépendre des marchés financiers?
Vous devez être très cohérent dans votre communication. Et cette communication, comme je disais, doit être la même, que ce soit à l'intérieur de la société, que ce soit à l'extérieur de la société. Et les investisseurs, c'est ce qu'ils recherchent finalement. C'est de savoir que non seulement vous êtes cohérent, mais aussi que vous avez une maîtrise de votre société, de vos actions, et que vous délivrez sur ce que vous promettez. Donc c'est vraiment là où il faut être très 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 clair ou très précis sur ce que vous attendez, sur les scénarios et... On ne peut pas raconter n'importe quoi. On doit vraiment être, encore une fois, c'est le même terme que j'ai utilisé, cohérent avec ce que vous faites et ce que vous dites.
CFO, c'est avant tout un métier de l'ombre. Comment est-ce que vous gérez ce relatif anonymat?
Alors, je pense qu'on choisit finalement la manière dont on est. Au sein de la société, je ne pense pas que j'apparaisse comme quelqu'un en retrait. Au contraire, dans nos discussions entre les membres du comité exécutif, il est très clair que j'ai une position sur les sujets que nous abordons. Après, c'est un travail d'équipe. Donc on doit tous finalement accepter qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Par contre, une fois que l'on a décidé en équipe de le faire, on reste solidaire. Ça, c'est très important. Je n'ai pas qu'un impact sur les chiffres. Par exemple, dans les derniers mois, j'ai beaucoup poussé pour mettre en place un Season Operating Planning Process, qui est en fait toute la revue de la supply chain, donc de toute la production, et de s'assurer que nous avons une bonne coordination entre les ventes et les opérations. Ça c'est quelque chose théoriquement qui est purement ou pour les vendeurs ou pour les opérationnels. En général, on serait un petit peu surpris de voir les finances impactant cela. Néanmoins, j'avais mon mot à dire. De la même manière, j'avais mon mot à dire dans la stratégie de l'informatique. Donc finalement, en tant que CFO, on a j'avais mentionné ça au début, c'est la versatilité de la fonction fait qu'on est on a une approche pour tout, pour tous les sujets de l'entreprise. C'est ce que j'appelle tous les chemins mènent à Rome. Toutes les fonctions mènent à la finance. Donc vous pouvez rester dans l'ombre, ou alors vous pouvez très clairement assumer votre rôle de personne qui impacte la société et discuter de tous les sujets avec les autres membres de l'équipe.
De quelle manière vous voyez l'évolution de votre poste?
Honnêtement, je n'ai pas... j'ai pas peut-être cette vision suffisante à 10 ou 15 ans, ou 15 ou 20 ans, parce que je pense que la digitalisation, même si on en parle déjà depuis plusieurs années, il y a beaucoup de sociétés qui n'y sont pas. Et je pense que les prochaines 10 à 15 ans, et avec la pandémie d'ailleurs, les sociétés l'ont réalisé, on va avoir besoin de beaucoup plus d'automatisation et digitalisation. On parle beaucoup de robotisation, etc., mais très peu finalement d'entreprises le font aujourd'hui. Pour moi, la vraie digitalisation, c'est la possibilité de faire le travail routinier par les systèmes, Et par contre, de maximiser la valeur ajoutée par les équipes. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est les analyses, c'est l'exactitude des données, c'est la compréhension de ce que l'on fait, c'est la possibilité de comparer ce qui est comparable. Et encore une fois, c'est vraiment d'anticiper. Pour moi, c'est ça qui est le plus important.
On parle beaucoup de la question féminine. Qu'est-ce que ça fait d'être, d'être une femme à ce poste de direction dans un secteur finalement très technique et davantage masculin?
Je pars du principe que lorsque l'on a la volonté, on peut évoluer et on peut avoir le poste que l'on souhaite. Ce n'est pas pour autant que c'est facile. C'est vrai que j'ai eu de la chance de toujours être dans des sociétés qui ont privilégié la carrière pour les femmes et je n'ai jamais eu l'impression d'être bloquée ou de ne pas pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, chez Sulzer, quand j'ai eu mon premier poste, quand j'ai été embauchée, j'étais enceinte, ils étaient au courant et ils m'ont quand même fait une offre pour m'embaucher à l'époque.
À la fin de l'année dernière, vous avez pris un siège au conseil d'administration de l'école hôtelière de Lausanne, finalement dans un secteur encore différent. Vous avez des multiples casquettes. Qu'est-ce qui vous a attiré finalement dans la formation l'hôtellerie?
D'une part, c'est l'une des meilleures écoles, la meilleure école dans l'hôtellerie et dans le domaine de l'hospitalité. Et j'aime quand quelque chose est au top, donc ça c'était clair que c'était intéressant pour moi. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir. Et pour moi, l'hôtellerie, l'hospitalité sont synonymes de ces voyages, de restaurants, de découvertes. Et la troisième chose qui est très importante bien sûr puisque c'est dans le domaine de l'éducation et qui pour moi est un domaine extrêmement important, c'est le domaine qui permet d'une part de former les nouvelles générations, d'autre part de faire évoluer et pour moi on évolue toujours, que l'on ait 30, 40, 50 ou plus, on apprend toujours. Donc pour moi tout ce qui est encore une fois évolution, coaching, mentoring, c'est très important. Et donc cela se cristallisait dans l'école hôtelière finalement, et c'est pour ça que j'étais très intéressée par ce poste et que je l'ai pris.
Là, vous aurez un poste d'administratrice. Quel sera votre rôle à l'EHL?
Alors mon poste reste dans le comité finances, donc ça reste proche des chiffres, mais la différence, je dirais, entre un financier opérationnel et un poste d'administrateur, c'est que dans le poste d'administrateur, vous avez une visibilité beaucoup plus à long terme, beaucoup plus stratégique.
Comment est-ce qu'on gère ces multiples casquettes?
Alors, il faut quand même savoir s'organiser et mettre ses priorités, puisque bon, j'ai plusieurs effectivement casquettes. J'ai la casquette de maman, j'ai la casquette d'épouse. J'ai la casquette du CFO de Tekken et la casquette effectivement administratrice chez à l'EHL. Donc c'est une question vraiment d'organiser son temps, de s'assurer que l'on a suffisamment de temps pour se concentrer sur chacune des choses et beaucoup de préparation aussi.
Vous avez une riche carrière professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, à 50 ans, vous avez toujours un fantasme professionnel?
C'est vrai que j'ai une préférence pour tout ce qui est où il y a de la production, des usines. J'aurais pas forcément envie d'aller dans du service ou de la banque. En termes d'évolution de carrière, bien sûr, on peut toujours évoluer, on peut avoir une société plus grande, plus importante, plus complexe. Aujourd'hui, je suis très heureuse dans ce que je fais, parce que d'une part, le secteur m'intéresse beaucoup, d'autre part, je peux vraiment conduire la société vers du changement, et c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'on est acteur de changement. Ce qui m'intéresserait plutôt, je pense, c'est de continuer à faire du coaching et du mentoring, de l'évolution de gens. Maintenant, j'ai encore 10-15 ans, j'espère. Donc cela n'arrête pas des possibilités qui puissent venir.
Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.